12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Il est en tête des ventes avec son nouveau roman Les Belles Promesses, suite de la saga des Pelletier dans la France des 30 Glorieuses. Pierre Lemaitre sera mon invité à partir de 13h. Et tout de suite, on critique avec deux films, The Mastermind, un braquage et ses conséquences, vu par Kelly Reichardt, et Ella McKay, dernier film de James L. Brooks, dont la sortie en salle a été annulée après son échec aux États-Unis, mais qui arrive sur Disney+, et qui mérite le détour apparemment. Vous écoutez les Midis de Culture, parce que c'était vous, parce que c'était nous. Et je vous présente les critiques du jour. Muriel Joudé, critique et autrice, bonjour.
Bonjour.
Philippe Azoury, critique et auteur, bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux.
You don't look like cops.
See, James, we've been told that you're mixed up in this robbery at the museum.
You got the wrong idea. I'm afraid you got some bad information.
Don't take it out on me. What can I do? This is all your fault, JP.
I just need a little time to get some things straight. Are these clean?
Art school dropout robs museum.
I'm kind of stuck.
I sure do appreciate the fact that someone I know and love is gonna come blow my mind.
I'm gonna hang up the phone now, James.
Terry, wait.
Neuvième long métrage de Kelly Reichardt, The Mastermind, se déroule en 1970 aux États-Unis, à une époque où la surveillance dans les musées était moins pointilleuse, dirons-nous. Pour autant, pas de nostalgie pour la réalisatrice. Cette période est aussi celle où la répression, la contestation pacifiste anti-guerre du Vietnam était féroce. Le film commence donc par la mise en œuvre de l'idée de J.B. Mooney, cambrioler le musée municipal. Mais évidemment, Kelly Reichardt, à qui on doit Old Joy, Wendy and Lucy, Showing Up, ne s'intéresse pas à la performance ni à des trajectoires de gagnants. Le voleur va vite déchanter et partir en cavale. On commence avec quelques mots d'abord, Philippe Azoury.
Alors, je vais dire plein de trucs contradictoires, comme ça, ça sera bien.
Super.
Je vais à la fois exprimer mon amour, parce que je crois que c'est un film dont je suis amoureux, et je vais faire aussi mon scrogneugneux. C'est un film qui, je suis amoureux de son style, de sa séduction, mais c'est aussi un film mastermind. Il y a beaucoup d'intelligence, il y a de l'intelligence partout, et il y a beaucoup de maîtrise, et c'est peut-être un film qui, justement, sur la question de la maîtrise, pose des questions à là où en est Kelly Reichardt. Voilà, c'est mon côté scrogneugneux, on pourra discuter de ça, mais
nous avons bien l'intention de le faire, Muriel Joudé.
Il paraît, oui.
Ah oui, c'est un drôle de film que moi j'ai déjà envie de revoir, parce que je sais pas ce que j'ai vu, et qu'on est un peu comme le héros, et qu'il y a presque on traverse le film presque en état grippal, quoi. Il y a un truc comme ça où on ne sait pas où on est, et c'est souvent c'est ce que travaille Kelly Reichardt, quoi. C'est cet état grippal qui l'intéresse.
Alors Philippe Azoury, la question de la maîtrise, c'est-à-dire vous êtes déçu, vous retrouvez pas la patte de Kelly Reichardt?
Non, je dirais pas comme ça, mais c'est de tous ces films, c'est le film je trouve le plus bouclé, au sens où ça tient et ça a une consistance incroyable et magnifique, enfin d'une virtuosité qui impressionne réellement. Or, voilà, moi je pense que c'est une cinéaste qui m'intéresse depuis très 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 longtemps, et je sais que la première rencontre avec ses films, c'était Old Joy, ça fait 20 ans maintenant.
Ouais.
Et Old Joy, on avait deux vieux copains qui se retrouvaient pour faire une virée, et ils s'apercevaient qu'ils n'avaient rien à se dire, et le film était c'était que ça, quoi. Voilà, c'est point barre. Et tous ces films depuis, je pense à La Dernière Piste, qui pour moi est un des plus beaux films des 25 dernières années, un western absolument sublime. Ce sont des films troués d'une certaine façon, et dans lequel il y a à la fois beaucoup de précision, beaucoup de détails, parce que le diable se niche dans les détails, et c'est aussi le cas dans The Mastermind, mais c'était des films qui étaient, d'une certaine façon, effectivement, comme dit Muriel, on savait pas exactement ce qu'on voyait. Là, c'est quand même un peu plus repérable. C'est un film de braquage dans un musée, dans le Massachusetts, toujours chez elle, ce choix, enfin vraiment toujours de déplacer. Après, je crois que la dernière partie, c'est dans l'Oregon, je crois, j'ai l'impression. Enfin, vraiment de déplacer le cinéma américain, de retrouver finalement là où l'Americana s'est fait en musique ou en littérature, et la musique et la littérature ou la photographie qui l'intéressent. C'est-à-dire vraiment dans un territoire américain à retrouver, à reconstituer. Donc là, Nouvelle-Angleterre, un moyen musée, Worcester Art Museum, des œuvres d'un abstrait américain plutôt méconnu, mais qui existe, qui est réel, qui est Arthur Dove, quelqu'un qui avait peint des vaches, notamment Cows. Elle a fait... voilà. C'est aussi les First Cows, c'était quelque chose qui l'intéresse. On sent qu'il y a quelque chose qui voilà. Et il y a, voilà. Et c'est un film de braquage, c'est-à-dire un plan. Un plan, c'est un mastermind, c'est quelqu'un qui va réfléchir ce plan, qui va commencer à minuter ce plan, qui va essayer de que tout ça s'enchaîne. Et évidemment, tout ça s'enchaîne plus ou moins bien, ça on dira pas comment, mais quand même jusqu'à mettre son héros, qui est joué par Josh O'Connor, que ceux qui ont vu The Crown connaissent, parce que c'est le prince Charles, c'est ça, dans The Crown, je crois.
Oui, oui, c'est ça. Dans sa jeunesse.
Dans sa jeunesse, hein, le jeune prince Charles, ou quelqu'un qui a 35 ans, vaut mieux. Ouais. Très grand, comme ça. Et qui a un jeu un peu minéral, un peu chaussette, enfin, c'est pas du tout le personnage.
Alors, minéral et chaussette, ça va pas tellement sembler. Minéral et chaussette, voilà. Les contradictions, ils nous avaient prévenu.
Ça va, j'avais annoncé la couleur, je serai dans la contradiction aujourd'hui. Et voilà. Et le film, ce qu'on n'a pas dit, enfin, si, vous l'avez dit, Marie, ça se passe en 1970. Avec des réminiscences de ce que pourrait être aujourd'hui, c'est-à-dire l'Amérique de Nixon et l'Amérique de Trump. L'Amérique de la guerre au Vietnam et l'Amérique, les facs américaines notamment, impactées aujourd'hui par ce qui s'est passé, ce qui se passe encore à Gaza. Et tout ça permet à Kelly Richard de faire un film qui est complètement séduisant parce qu'il reprend les codes de ce qu'a été un cinéma que moi j'adore, enfin que ce soit l'ami américain de Wenders avec cette photographie de Robbie Mueller complètement incroyable, que ce soit, je crois qu'elle cite le film de John Huston, Fat City, qui est le film sur la boxe comme ça qui est incroyable, mais avec son chef-op Christopher Blofeld, ils ont vraiment retravaillé ces beiges, on se croirait dans des photos de William Eggleston ou de Stephen Shore, et la musique de Rob Mazurek, qui est un trompettiste qui a joué avec Pharoah Sanders, qui joue avec Stereo Lab, qui joue... j'ai un trou, le cinquième Sonic Youth, mais ça me reviendra. c'est des gens admirables à tous les endroits, et ça crée quelque chose qui est très... comme ça, ces beiges, ces couleurs très intenses, on dirait du Kodakolor. Et ça donne cet effet de maîtrise, et en même temps, est-ce que la maîtrise, c'est le sujet de Kelly Richard ? C'est notre problème.
Alors justement, Muriel Joudet.
Oui,
la maîtrise.
C'est vrai que elle travaille un paradoxe entre le titre, la maîtrise de la mise en scène, qui est où on attend quelque chose de cette mise en scène, de cette musique, de ces plans, qui n'arrive jamais. C'est-à-dire qu'on est et c'est là que Richard, on peut aussi, je sais pas comment on dit Richard, Ricard, on peut aussi passer à côté parce que elle est tellement dans un anti-hollywoodisme, elle écrit tellement contre Hollywood et contre tout ce que Hollywood a fait du spectateur, c'est-à-dire l'idée de péripétie, de personnage, d'héroïsme, de quelle jouissance nous donne le cinéma américain, et Richard joue vraiment contre ça. Donc parfois on peut se dire en sortant d'un de ses films, j'ai rien ressenti, donc c'est nul, mais en fait, elle a cherché cet état un peu de elle nous laisse avec cette errance qui vient aussi, voilà, le cinéma indépendant américain a toujours travaillé, Gus Van Sant, voilà, ou Todd Haynes, c'est toujours des gens qui ont travaillé contre la dopamine que fournit le cinéma américain. Et c'est vrai que peut-être que là, je me suis dit, je suis pas très claire sur ce que je pense du film, mais je me suis dit, comme dit Philippe, c'est-à-dire, j'ai l'impression que ça fait un peu système. Il y a un moment où ça fait peut-être un peu système. Et en même temps, il me reste quelque chose, et le film me hante ou me traverse ou j'y repense parce que il y a ce héros qui en fait passe à côté de l'histoire, c'est ça que nous dit le film, mais qui est comme ça ballotté, enfin il traverse des genres, donc il passe du film de braquage au road movie. Il passe d'un endroit à un autre, mais il n'a jamais vraiment décidé de passer d'un endroit à un autre. Et donc, il y a vraiment comme ça un personnage qu'on nous montre à la fois agissant, et en même temps, quand on repense son film, on se dit « Ah oui, c'est vraiment quelqu'un qu'on a déplacé comme un sac. Ouais. » Et ça, sur la passivité de ce héros, il y a quelque chose, voilà, contre Hollywood, contre l'idée aussi de la durée, c'est-à-dire qu'elle met de la durée là où il n'y en a pas habituellement. Ouais. Donc, il y a toute une scène...
Dans la minutie, quoi.
Voilà, dans la grange où il emballe les tableaux qu'il a volés. Alors apparemment c'est la grange de Todd Haynes, j'ai lu ça.
Ah, c'est vrai.
Et apparemment elle avait tourné une scène très très longue où Josh O'Connor construisait voilà la boîte, enfin ça durait des plombes, puis finalement elle a retiré ou raccourci cette scène, et habituellement en fait quand on fait un film de braquage, je pense notamment à Thief de Michael Mann, qui est film génial où vraiment on va aller filmer en longueur le braquage. Là le braquage dure 10 secondes. Enfin voilà, elle déplace comme ça les durées, elle va en mettre là où il y en a. Bah c'est quand même très très, enfin tu vois, c'est pas le, en fait c'est un musée municipal, c'est des tableaux.
Oui, c'est pas le Louvre.
Voilà. on est quand même.
Alors, on ne rentre pas dans ce genre de considération.
Non, mais c'est voilà. C'est un petit musée. C'est un petit braquage. Et alors, moi, j'aime pas le mot loser parce que je trouve qu'on peut l'appliquer à trop de choses, trop de films et tout ça. Mais il y a comme ça l'idée de presque que rien ne fait événement jamais. Et que en même temps, il y a ce dernier plan qui est peut-être le seul événement du film, qui est très très beau, mais qui est en même temps tellement maîtrisé que voilà, comme tu dis, là vraiment la boucle est bouclée. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui je commence à voir les ficelles d'un système anti-hollywoodien, mais ça reste quand même une grande cinéaste. Mais là vraiment, je sais plus trop quoi en penser parfois.
C'est intéressant parce que je réalise qu'on n'a pas pris du tout le film, on n'a pas reçu le film de la même façon. Parce que moi, c'est vraiment sa maîtrise et presque la façon dont il peut dialoguer avec quelqu'un que moi, par ailleurs, j'admire, hein, enfin, qui est Paul Thomas Anderson, par exemple. Et je me dis, tiens, il y a quelque chose de ce côté-là, alors que habituellement, c'est vraiment contre cette efficacité-là qu'elle se positionne. J'ai revu Showing Up, qui est un film, qui est son précédent film.
Sur le milieu de l'art,
dans une art school, qui est un film totalement, enfin, volontairement inefficace et terne.
On attend quelque chose.
Michelle Williams tire la gueule pendant 1h55.
Ouais.
Et là, on se dit, c'est marrant, enfin, elle passe 3 ans après de ce film-là, qui est un film qui se retenait sans arrêt, à un film de pure jouissance, quoi. Parce que moi, il y a quand même une jouissance pure dans The Mastermind. Et je me dis, c'est quand même intriguant. Qu'est-ce qu'elle veut? À quel endroit elle veut faire? Et dans Showing Up, il y avait une scène, comme je l'ai revu avant-hier, parce que tout repasse au grand action. Je suis tombé assez amoureux de The Mastermind, je revois tout. Donc, il y a quand même une scène où, à un moment, elle descend et elle voit les œuvres des autres. Michelle Williams revoit les œuvres des autres artistes, enfin, des autres artistes étudiants de cette art school. Et ils font des choses très très grandes. Et elle fait des miniatures, elle fait des sculptures toutes petites. Et je me dis, là, j'ai l'impression que Kylie Richard, à force de voir PTA, Paul Thomas Anderson, effectivement Van Zandt, faire des choses qui sont quand même assez, à un moment assez gigantesques, se dire, et si à un moment j'en sortais aussi d'un système dans lequel je suis, sans doute, c'est un des effets très longs de l'échec commercial de La Dernière Piste, qui était un film, pour le coup, qui était d'une ampleur assez sidérante. Et ça prend 15 ans finalement pour qu'elle arrive à redonner quelque chose de cette ampleur-là. Et au point où on se dit, mais est-ce qu'elle est pas dans un système un peu de camouflage ou de séduction par rapport au système américain? Mais c'est aussi, quelle est la marge aujourd'hui pour une cinéaste américaine de ce calibre-là, de cette intelligence-là, de cette culture-là et de cette politique-là dans une Amérique, on en reparlera dans le deuxième film, enfin je veux dire dans l'Amérique trumpiste, est-ce qu'il faut pas à un moment donné effectivement déployer de la séduction, redoubler en séduction pour pouvoir arriver à dire des choses qui sont effectivement intelligentes partout?
Mais rajouter un mot là-dessus?
Oui, non, c'est très intéressant que vous rappelez cette scène de Showing Up où elle se moque quand même des étudiants en art bien nourris qui font des trucs des grandes formes et je pense qu'elle se The Mastermind enfin voilà, mm-hmm. C'est aussi peut-être aussi, moi j'ai toujours trouvé Kelly Richards un peu méchante, un peu, enfin elle se place quand même comme je suis une cinéaste femme face à des grands, enfin, et c'est pour ça que ce qui était très beau dans Showing Up, c'était presque le portrait d'elle-même, c'est-à-dire toutes ces valeurs qu'on attribue habituellement au cinéma féminin, les petites choses et tout ça, elle est vraiment dans une sorte de revendication, mais très je trouve très affirmée et avec une petite pointe de méchanceté ou d'ironie. C'est-à-dire que je trouve toujours qu'elle est là, je sais ce que vous attendez d'une cinéaste femme, où vous êtes, comme vous l'avez dit, le côté, les hommes, c'est le grand format, c'est le panorama sur l'Amérique, c'est l'histoire de l'Amérique. Moi, je veux être sur des petites formes. Et elle le revendique et elle l'habite d'une manière que je trouve magnifique, parce que je pense qu'elle elle réfléchit beaucoup à sa place de cinéaste femme aussi, parce qu'elle est la seule. Mmh. Maintenant, quand on dit dans le cinéma américain comme réalisatrice, on pense tout de suite à elle. Et donc, elle s'attribue et elle réinvente ses règles et ses clichés du cinéma, de ce qu'on attend d'une cinéaste femme. Et je la trouve un peu teigneuse dans ses films. Voilà, je trouve qu'elle envoie, j'ai senti une petite pointe de méchanceté que j'aime beaucoup chez elle.
Elle a toujours travaillé l'idée de prendre la personne qui prend la mauvaise piste, le mauvais chemin, la dernière piste, mais ça, il n'y en a plus d'autres. Et le film aussi parle de ça. Et ça, c'est la dernière partie, on l'a pas dit. Enfin,
ouais.
Pas fou de la fin, mais la dernière partie sublime sur
on laissera nos auditeurs
de ce film
découvrir tout ça. The Mastermind, Kelly Richard, en salle ce jour. Et c'est l'heure de votre coup de cœur, Philippe Azoury, pour Le gâteau du président.
Oui, le film de Hassan Hadi, qui a eu à la fois la Caméra d'Or et le prix du public à la quinzaine de réalisateurs. C'est un cinéaste irakien. Et on a presque déjà présenté le film en disant ça, parce qu'en fait, des cinéastes irakiens, il y en a presque plus, il y en a plus depuis un bon moment. Il y a eu une histoire du cinéma irakien. Que ce soit les studios de Bagdad, le réalisme social d'un film qui s'appelait Saïd Effendi de Kamerman Hosni en 57. Et puis, à partir de 79, à l'arrivée de Saddam Hussein, c'est un cinéma qui devient purement propagandiste. Et surtout à partir de 89-90, c'est-à-dire à partir de l'attaque de l'Irak contre le Koweït, il y a eu les sanctions internationales ont littéralement tué le cinéma irakien. Et le cinéma irakien, depuis, c'est un cinéma en exil ou c'est un cinéma documentaire qui a travaillé a essayé de nous montrer de temps à autre, mais ça remonte à très longtemps. Enfin, je veux dire, un film comme... qu'on s'appelait le... Ah, ça y est, je perds la mémoire. Bagdad année zéro, ça a déjà... Bagdad année zéro, ça a déjà 15 ans, quoi. Et on s'aperçoit qu'on n'a plus d'images de ce cinéma-là. Et là, ce film arrive et il reprend, justement, l'histoire là où elle s'est presque arrêtée, c'est-à-dire que le film se passe en 90, et c'est une petite fille, un petit garçon qui sont désignés, qui ont été élus dans la classe pour faire un gâteau pour l'anniversaire de Saddam Hussein. Sauf que quand on sait déjà pas comment manger, quand sa famille sait pas comment manger, quand on est vraiment dans une merde inouïe, trouver de la farine, des œufs, de quoi faire de la crème, c'est le début d'une épopée. Et c'est c'est toujours sur ce mode épique du miracle à accomplir que le film se déplie, avec des fois un goût pour la trop belle image qui sait très bien faire, enfin Hassan Hadi, mais d'une certaine façon c'est quand le film est rugueux, quand le film est presque sont tombés d'un documentaire en 16 mm d'archives qui est le plus fascinant. Et c'est presque étrange, enfin ce film a eu un énorme impact à Cannes où les films sont tous en concurrence les uns après les autres, alors que d'une certaine manière on se dit que ce film il est intemporel. C'est à la fois son charme et le reproche qu'on peut lui faire, c'est que c'est un film qui s'écrit finalement, qui est plus du tout en dialogue avec le cinéma aujourd'hui tel qu'il se fait. C'est un film qui finalement aurait pu être exactement le même en 1991 ou 92, mais il donne des images de l'Irak, et des images de l'Irak, on n'en a pas. Et moi, je veux bien en recevoir, je veux bien savoir ce qui se passe là-bas, comment on vit en Irak en ce moment.
Le gâteau du président de Hassan Hadi.
Hi, I'm the narrator. I'm here to provide facts about Ella McKay. I've worked for her ever since she finished law school, so I'm not exactly neutral. I'm nuts about her.
Voilà comment tout a commencé.
Tante Hélène, on va dire que j'ai un problème à la fois sérieux et ridicule. Et t'es la seule à qui je peux en parler.
J'ai peur que tu aies un autre problème, Ella. Désolée. Ton père est ici.
Pourquoi ?
On s'est pas vu depuis... Combien de temps ? Tu sais pas non plus.
Eddie, tu m'avais promis que tu allais prendre sur toi.
Je suis plus la même personne. J'ai rencontré une femme vraiment exceptionnelle.
Oh !
Non, attends, je suis très sérieux. C'est la première fois de ma vie que je ressens ça pour une femme.
Oh, nom de Dieu, Eddie !
Non ! Attends, non, ta mère, ça compte pas. Elle jouait pas dans la même catégorie.
Je dirais simplement que vous avez une chance incroyable si, lorsque vous êtes témoin du bonheur indécent des familles normales, vous ne ressentez pas un coup de poignard dans votre pauvre petit cœur.
Loving you is the right thing.
Ella McKay, c'est l'histoire d'une jeune juriste qui se retrouve propulsée gouverneur. C'est surtout l'histoire d'une famille dysfonctionnelle, les McKay donc. Ça fait 15 ans que James L. Brooks avait disparu du grand écran. Ella McKay était donc très attendue de ses admirateurs car, pour de nombreux cinéphiles, le co-créateur des Simpsons est surtout un génie de la comédie. On lui doit notamment Tendre Passion, Broadcast News dans les années 80 et Pour le meilleur et pour le pire qui vaut l'Oscar à ses deux interprètes à l'époque, Jack Nicholson et Helen Hunt. Mais Ella McKay a été un échec commercial et critique à sa sortie aux États-Unis. La sortie en France a donc été annulée en catastrophe. On peut le voir sur Disney+ à partir de demain et en VOD. Quelques mots, Muriel Judé.
C'est un film qu'il faut prendre dans son contexte et c'est un film bizarre parce que moi je suis une très grande fan de James L. Brooks, mais c'est des retrouvailles et c'est aussi des adieux parce que James L. Brooks a 85 ans, il met 10 ans à faire des films. Mais voilà, au-delà de ça, je trouve que le film est raté, mais il y a quand même cette dimension de retrouvailles avec un cinéaste que j'ai aimé profondément et en même temps on lui dit au revoir parce que sans doute il va pas refaire de film. Donc je suis voilà, je me dépatouille dans tous ces sentiments.
Philippe Azoury.
Je dirais d'abord qu'il faut se méfier. Moi j'avais dû écrire ça quand Manuel de Oliveira avait 85 ans, il a fait des films jusqu'à 106 ans, il en a fait 30 de plus, mais bon, je pense aussi comme Muriel que c'est peut-être un peu la dernière fois qu'on a des nouvelles cinématographiques en tout cas de James L. Brooks. Je suis sans doute moins fan que Muriel, mais c'est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup par son art du dialogue. Et c'est vrai que là, vous disiez, voilà, pour le meilleur et pour le pire, c'est ni pour le meilleur, ni pour le pire, parce qu'il y a des choses incroyablement intéressantes dans le film. Mais c'est un film qui est en partie raté, oui.
Alors Muriel Joudé, qu'est-ce qu'on retrouve de ce que vous avez adoré de James L. Brooks dans ce film ?
Je pense que déjà, et c'est là qu'il faut, je dirais pas ça de beaucoup de films, mais c'est les fans de James L. Brooks vont trouver des choses à aimer. Et ceux qui connaissent pas James L. Brooks, ils vont ouvrir Disney+, qui vont mettre Play, ne vont pas comprendre devant quoi ils se trouvent. C'est-à-dire qu'il y a un côté très impur chez James L. Brooks, qui travaille vraiment une texture de sorte d'Amérique comme ça, à la Norman Rockwell, hein, qui est une grande influence pour lui, c'est-à-dire vraiment le soap opéra, les formes impures comme ça, il faut aller passer outre ces formats impurs, cette image un peu télévisuelle pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est pour ça que voilà, le fan de Brooks, c'est quelqu'un qui fait ce chemin vers ce que le cinéaste a montré. Ce qu'on retrouve, c'est déjà une sorte d'électricité, ça va très très vite. Les personnages passent du rire aux larmes. Alors là, je pense que la vraie influence, c'est Capra. C'est-à-dire, Capra, c'est quand on regarde dans les détails. Moi, j'avais revu récemment La vie est belle. C'est vraiment maniaco-dépressif. C'est-à-dire, on pleure. À la scène d'après, on a des fous rires. Enfin, c'est complètement fou. Et là, vraiment, dans toutes les scènes, c'est comme ça. On pleure, on rit. Il y a comme ça une sorte de fièvre qui s'empare de tous les personnages. Et les personnages, c'est là où il faut être peut-être un peu habitué, parle énormément, et l'action chez Brooks consiste à tout le temps analyser ce qu'on vient de vivre, à s'auto-analyser, à dire ce qu'on ressent, à dire stop, là, on arrête, on va parler de ce qui est en train de se passer. Donc il y a, et c'est ça dont on est éperdument amoureux quand on aime Brooks, c'est ce rapport au langage qui a complètement disparu dans Hollywood, hein, puisqu'il y a vraiment, James L. Brooks, c'est un peu le gardien de phare du Hollywood classique, c'est le seul qui essaye de faire revivre quelque chose qui appartient au Hollywood des années 30, 40, les screwball comédies, les films avec Catherine Hepburn, voilà, les films de Frank Capra. Et donc, il est sur un créneau qui, pour le dire très clairement, n'intéresse plus grand monde. Le spectateur, il s'en fiche complètement, il a oublié ses films, il les a peut-être jamais vus. Ça intéresse que quelques personnes, mais James L. Brooks n'a jamais changé son cinéma. Depuis 1983, il écrit toujours de la même manière ses films. Il parle toujours d'une Amérique comme ça qui a l'air de ne pas avoir vraiment changé. Là, on est en 2008 dans le film. Et on sent qu'il y a cette idée de d'être un peu un effet boule à neige. On est vraiment dans une boule à neige. Donc on comprend, quand on aime Brooks, on est content de retrouver cette boule à neige, mais on voit aussi ses limites. C'est-à-dire que sur la politique, c'est quand même... on a vu trop de séries sur les arcanes de la politique, on a vu trop de fiction, on a vu aussi trop de réels qui font que Capra ou Mr. Smith au Sénat, ça a quand même ses limites. Et puis, voilà, on voit un peu les fissures du système. C'est-à-dire qu'il y a cette manière que Brooks a de voir de la bonté en chaque personnage se tourne un peu en mièvrerie. Et donc voilà, moi j'ai vu vraiment, j'étais contente de retrouver quelque chose. En même temps, ce cinéaste, et en même temps, je me suis dit, c'est un cinéaste qui ne peut plus exister dans ce qui est devenu Hollywood. Et je comprends presque Disney. En fait, il y a deux mouvements. Je me suis dit, comment il a réussi à trouver de l'argent pour faire ce film? Parce qu'il a Brooks, ça ne marche plus depuis très longtemps. Comment savoir? Je crois que c'était 100 millions de dollars. Ça avait fait un four aux États-Unis. C'était resté deux semaines dans les salles françaises. Mais bon, comme il est riche quand même de sa réputation de producteur des Simpsons et tout ça, il arrive à financer ses films, mais quand même, il met 10 ans à les faire. 15 ans. Donc je me suis dit, comment il a trouvé l'argent pour faire encore un film? Et ensuite, évidemment que ça va se retrouver sur Disney+, mais ça va concerner 1000 personnes, vont vouloir voir ça. Voilà, donc c'est aussi un état, une photographie de ce qu'est Hollywood. Et le truc très triste, c'est l'adieu qu'on fait aussi à ce cinéma-là et à Brooks.
Je cite juste un peu le casting qui est quand même assez intéressant. Oui. Emma McKay dans le rôle de Ella McKay, Jamie Lee Curtis, c'est drôle. Ouais. Oui. Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Philippe Azoury. Il nous reste peu de temps, malheureusement.
C'est passionnant d'entendre Muriel sur James L. Brooks, parce qu'elle connaît vraiment beaucoup ça par cœur. Et Muriel disait que le cinéma avait changé, ce que je suis totalement d'accord. C'est le monde aussi qui a changé. Et c'est même étonnant, du coup, je me disais, si j'avais vu ce film en salle, c'est-à-dire on va pas se mentir, je veux dire, moi je l'ai vu sur mon ordinateur, mon téléphone était allumé à côté, j'ai quand même regardé toutes les 7 minutes, savoir si la Troisième Guerre mondiale avait pas commencé, c'était le week-end dernier. En fait, je suis pris dans ce mouvement-là, c'est-à-dire dans le mouvement du monde, et le monde s'est accéléré, le trumpisme a accéléré le monde depuis un an de façon délirante, et qu'il avait sans doute ce film, pour être apprécié, au moins par quelques-uns, avait besoin d'un écran hors téléphone portable, c'est un endroit où on coupe tout, qui est la salle de cinéma. Bon, et là, ça n'a pas lieu. On comprend aussi pourquoi ça n'a pas lieu. Moi, pendant 20 minutes, que je trouvais très belle, je trouve le début très, très, très écrit, presque un peu rivettien, comme ça, je trouve assez magnifique. Je me dis, mais pourquoi, quand même, un film qui s'est aussi bien cadré, filmé, avec des acteurs formidables, de l'intelligence dans les dialogues, de la vivacité, pourquoi ça trouve pas? Et puis, quand même, le film montre assez vite ses limites. Ses limites, c'est précisément le personnage d'Ella McKay. C'est une procureure, enfin c'est quelqu'un qui était assistant du procureur et qui est nommé procureur. C'est une pure, c'est une irréductible. Et là aussi, Muriel disait, on a vu tellement de séries sur ce qui est, en fait, la vraie jouissance de la politique aujourd'hui, c'est la trahison, en fait, c'est le volte-face. Et là, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, enfin, ou quasiment pas, d'un iota pendant tout le film. Et c'est difficile à dire, parce qu'en plus, elle est incarnée par Emma McKay. Moi, j'adore Emma McKay, je trouve qu'elle est incroyable dans ce film-là. C'est une actrice bouleversante d'intelligence, on le voit partout. Mais ce personnage est chiant, chiant à mourir. Et ce personnage est, comme disent les Américains, est boring. C'est-à-dire, on a l'impression que le film s'aperçoit au fur et à mesure qu'il la filme, que ce personnage n'est pas suffisamment intéressant, parce qu'il n'est pas suffisamment complexe, il est d'un seul bloc, pour pouvoir provoquer quelque chose de l'ordre de l'intérêt au pouvoir. Et c'est presque un constat sur, finalement, enfin on peut se dire aujourd'hui, c'est un grand cinéaste démocrate, Brooks. Pourquoi finalement les démocrates n'arrivent pas à fasciner dans leur programme politique chez les Américains, même la démocratie n'arrive plus à fasciner, et que c'est la séduction vulgaire et dégueulasse des républicains, du trumpisme, en fait, voilà, qui fascine et qui fait spectacle là où eux finalement ne font plus que intelligence, mais que cette intelligence n'est plus assez magnétique.
Donc il manque un peu le côté teigne qu'on retrouvait chez Richard, c'est ça?
Moi je trouve que puis la fiction démocrate, elle est tombée d'elle-même, avec Trump, c'est-à-dire, voilà, on veut pas non plus des fictions Kamala Harris. Enfin, il y a ce truc aussi où le film est très naïf sur et du coup pose la question de la fiction de gauche à Hollywood, mais qui n'a pas.
C'est ça qui est mis en jeu. Enfin, c'est le passage, voilà, de l'ancien président.
C'est ça qu'il est obligé de remonter à 2008. Moi, je trouve que sur la politique, on peut plus être à l'Ouest comme ça. C'est vrai que c'est plus pardonnable. Mais voilà, on invite quand même à voir des très grands films de Brooks. C'est tous des grands films.
C'est malheureux.
Tendre Passion commence à voir.
Il est dépassé par le trumpisme, en fait. Et oui, c'est malheureux de constater ça, même de notre côté à nous.
Oui, il n'a rien à dire sur ça.
Mais nous, on a plein de choses à dire. Emma McKay, merci beaucoup. Merci Muriel Joudet, merci Philippe Azoury. Je rappelle, Emma McKay est donc visible en VOD et sur Disney+, à partir de demain. Vous qui nous écoutez, eh bien, j'espère que vous irez voir ces deux, trois films dont nous avons parlé aujourd'hui. Restez avec nous, on revient très vite.